15h de l'après-midi.
Il est 15h.
Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire.
L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Bonjour et bienvenue dans la 66e émission de Du poil sous les bras. Installez-vous confortablement près de votre vieux poste radio, ouvrez grand vos oreilles, on s'envole pour la Réunion aujourd'hui. Alors dit comme ça, ça fait rêver, vous imaginez les plages, les ananas, les dodos, mais en vrai, c'est juste pour vous dire que mon invitée du jour est réunionnaise. On s'est entretenu via une bonne vieille ligne téléphonique qui, tout comme un vieux poste radio, grésille un peu, mais c'est bien que tout ne soit pas parfait. L'humanité est imparfaite et cette émission est pleine d'humanité, tout comme mon invité.
Les gens comme moi, ils vivent à La Réunion. Ils ont été habitués à un environnement superbe, luxuriant. Les gens comme moi ont grandi dans une maison avec un grand jardin au bord d'une ravine. Les gens comme moi ont toujours eu l'habitude d'avoir des animaux. Mais les gens comme moi, c'est aussi des gens qui aiment lire, qui aiment écrire, qui ont toujours eu en fait au final une certaine appétence pour la recherche, mais sans vraiment s'en rendre compte. Les gens comme moi se sont sentis concernés par tout ce qui dit justice sociale depuis tout petit. Les gens comme moi, par exemple, ont dit à 9 ans à leur maman qu'ils aimeraient bien aller en Russie pour parler à Poutine et lui dire d'arrêter la guerre en Tchétchénie. Les gens comme moi, voilà, à 7 ans, savaient ce que c'était le conflit en ex-Yougoslavie, etc. Donc, ils ont toujours eu une espèce d'intérêt pour les questions d'actualité. Et les gens comme moi, ils finissent par faire une thèse en sciences politiques à Paris 8 parce que c'est le meilleur établissement dont on puisse rêver pour faire ce genre d'études.
Si ça se trouve, à 10 ans, mon invité en savait plus que moi aujourd'hui sur les conflits mondiaux. Moi, à 10 ans, je faisais des cauchemars parce que j'avais peur de mourir, je ne sais pas trop pourquoi. Aujourd'hui, grâce au passionnant livre de mon invité, je sais que mes pires cauchemars sont plus doux que certaines réalités. Bonjour.
Bonjour, je suis Malika Danois. Je suis docteur en sciences politiques. Actuellement, j'effectue un post-doctorat à l'Université de Nanterre. Et je travaille sur les questions liées au terrorisme, aux libertés fondamentales et aux états d'exception.
Et oui, vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là. La Réunion, le soleil, les oiseaux qu'on entend parfois, souvent en fond sonore. Et bim, je vous annonce qu'on va parler terrorisme. Enfin, on va surtout parler de ce qui s'appelle le système de restitution extraordinaire. Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien, moi non plus, je ne connaissais pas. Et puis, j'ai lu Enlever, détenir, torturer, l'archipel pénitentiaire de la guerre contre la terreur 2001-2010, le livre de Malika Danois aux éditions Sileps. J'ai mis un peu de temps à ouvrir le livre, pour être honnête. Le titre me donnait moyennement envie, et pourtant je sentais que ça allait être intéressant. Eh ben, j'ai pas été déçue. C'est un livre qui porte bien son titre. Enlever, détenir, torturer. Ce sont très précisément les trois piliers du système que décortique Malika Danois, le système de restitution extraordinaire. Un système secret, illégal et carrément détestable. Un système dont vous n'avez pas idée. Bien sûr, vous avez entendu parler de Guantanamo, vous avez ouï dire qu'il y a eu quelques tortures, vous vous doutez bien que les États-Unis ne sont pas toujours très à cheval sur le droit. Ou même, comme certains, vous pensez que quelques entorses aux libertés fondamentales, c'est pas si grave si ça permet d'obtenir des informations. Eh bien, avec des si, figurez-vous, on défait le monde. Il faut plutôt imaginer la réalité et ses conséquences profonde et irréversible. Alors normalement, après cette bonne annonce alléchante, vous avez envie d'écouter la suite de l'émission ? Eh bien ça tombe bien parce que la suite, c'est après le générique dans Du poil sous les bras.
La petite blanche dans Du poil sous les bras.
Et c'est donc avec Malika Danois, que vous connaissez aussi peu que le système de restitution extraordinaire, que vous allez tout comprendre de ce dernier. Un système qu'elle explique très bien dans son livre « Enlever, détenir, torturer ».
Donc ce livre, il est issu de ma thèse de doctorat qui était consacrée au programme de restitution extraordinaire que les États-Unis ont mis en place après le 11 septembre. Derrière ce nom abscond de programme de restitution extraordinaire, en fait, se dissimule un programme secret clandestin de capture, de détention et de torture de suspects de terrorisme après le 11 septembre. Sachant que c'est un sujet qui est largement méconnu en France et en Europe, dans le sens où, comme le programme de restitution est américain, c'est un sujet qui est beaucoup plus connu aux États-Unis et voire dans le monde anglo-saxon. Mais en Europe et en France, on est largement ignorant de ce sujet qui pourtant charrie des questions liées aux droits humains et aux droits fondamentaux. Et par exemple, on sait très peu que des prisons secrètes de la CIA dans la guerre contre le terrorisme ont existé en Europe, en Pologne, en Roumanie, en Lituanie. Et donc en fait, avec ce livre, l'objectif c'était que ce sujet soit davantage connu. Et également pour lutter contre l'invisibilisation de tous ces gens qui ont été enlevés de manière illégale, détenus et torturés, et qu'on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas qui ils étaient à peine, si on sait qu'ils ont existé. Et donc voilà, ce livre, c'est une manière de faire ma part pour leur rendre une certaine mémoire.
Il y a eu des prisons secrètes, même en Europe, où l'on torturait des personnes kidnappées par la CIA un peu partout dans le monde. Alors, des lieux de torture en Europe dans les années 2000, ça surprend un peu. Même si on sait que les Américains trouvent facilement des pays alliés prêts à les aider quand il s'agit de bafouer les droits et d'user de méthodes pour le moins crasses. Mais comment tout cela s'est mis en place ?
Après les attentats du 11 septembre 2001 à New York, le président Bush déclare une guerre contre le terrorisme, une guerre contre la terreur. Bien sûr, ce sont que des éléments rhétoriques, parce qu'en fait, il va parler de guerre pour montrer un peu le côté martial et la dureté de la réponse politique et militaire américaine face à des attentats sans précédent sur le sol américain. Mais en fait, ça n'a que le nom de guerre, puisque dans les actions militaires qui vont être menées, les Américains ne respecteront absolument pas le droit de la guerre, qu'on appelle aussi le droit international humanitaire, qui impose au niveau international pour les parties belligérantes donc des règles à respecter, notamment au regard de la protection des populations civiles et la protection des combattants belligérants dans le camp opposé. Et donc, en fait, les Américains déclarent une guerre, mais ne vont absolument pas respecter le droit international humanitaire, ce qui va les emmener dans le cadre, de réponses clandestines à la menace terroriste, à mettre en place ce qui a été appelé comme étant le programme de restitution extraordinaire. Mais il y a eu aussi tout un ensemble d'autres mesures d'opérations clandestines, comme par exemple les assassinats par drone, les assassinats ciblés par drone en dehors des théâtres d'opération, etc., comme par exemple au Yémen, en Somalie. Et donc, le programme de restitution extraordinaire, il prend place dans ce qu'on peut appeler un volet clandestin de la lutte antiterroriste, où à côté des actions militaires qui vont être menées en Irak, en Afghanistan, et qui sont connues, c'est-à-dire que en octobre 2001, les Américains envahissent l'Afghanistan parce qu'ils considèrent que le régime des talibans est coupable d'abriter Al-Qaïda. Et donc voilà, ils vont envahir l'Afghanistan, ils vont envahir l'Irak en 2003, ça c'est connu, je veux dire, ça a été rapporté dans les médias, etc. Mais donc, à côté de ces actions visibles, il y aura le développement d'un volet clandestin de la lutte antiterroriste dont le programme de restitution ainsi que d'autres mesures feront partie.
Prenant prétexte de la guerre contre le terrorisme de 2001 à 2008, les États-Unis mettent en place des actions militaires très critiquables mais connues. Et dans le même temps, les États-Unis vont se dédouaner des règles du droit international et créer un système parallèle pour enlever des personnes et leur extorquer des informations. Ces mêmes informations qui ont servi de prétexte pour envahir l'Afghanistan ou l'Irak, alors même que ces informations se sont souvent avérées totalement fausses. Qui l'eût cru, comme dirait l'autre, que nombre de renseignements obtenus sous la torture n'étaient pas fiables? Car oui, la torture est un des piliers de ce système de restitution extraordinaire, fils caché du déjà très problématique système de restitution.
La restitution, c'est une pratique qui consiste à kidnapper des gens donc à l'extérieur du territoire, en l'occurrence américain, parce qu'on considère que ces gens se sont rendus coupables de crimes, soit sur le territoire américain, soit de crimes qui ont visé des ressortissants américains à l'étranger. Et en fait, les restitutions, donc rendition en anglais, les restitutions ont d'abord été utilisées à partir donc des années 80 jusque dans les années 90 sous le nom de restitution à la justice. C'est-à-dire que dans ce cadre, les États-Unis ont développé un mécanisme en dehors des règles normalement admises par le droit international qui consistait à enlever à l'étranger un individu qui se serait rendu coupable de crimes donc envers les États-Unis ou ses ressortissants pour les juger à l'intérieur du territoire, sur le territoire américain. Et donc, on peut dire qu'à ce moment-là, donc dans les années 80, il y avait, on peut dire, encore une certaine base légale dans le sens où c'était des individus qui s'étaient réellement rendus coupables d'actes criminels et contre lesquels, en fait, un acte d'accusation existait. C'est-à-dire que c'était des criminels en fuite. Les États-Unis ont pris des largesses avec le droit international en considérant qu'ils pouvaient les kidnapper, chose qui normalement n'est pas possible, enfin je veux dire en tout cas légalement parlant, mais au moins on va dire que ces gens-là étaient jugés pour des crimes qu'ils avaient probablement commis.
L'idée de la restitution, rendition, c'est quand même de rendre justice. Mais au début des années 2000, il y a eu ce tournant incroyable. Les États-Unis passent de la rendition to justice à l'extraordinary rendition, la restitution extraordinaire.
Après le 11 septembre, on a assisté en effet à un basculement du principe, c'est-à-dire qu'on a gardé le mot restitution ou rendition pour rappeler cette pratique de kidnapping à l'étranger, mais on y a apposé l'adjectif extraordinaire, extraordinary, pour basculer dans un système qui n'avait plus aucun lien avec la justice et qui, au contraire, a été pensé pour contourner toutes les règles de droit et tout le système de justice américain. C'est-à-dire que dans le cadre des restitutions extraordinaires, le principe, ça a été de kidnapper des suspects de terrorisme, donc on ne parle plus de personnes contre lesquelles en fait la justice a émis un mandat d'arrêt ou émis un acte d'accusation. Sur la base d'un principe de suspicion généralisée qui s'est développé après le 11 septembre, on a arrêté un peu partout à travers la planète des individus contre lesquels en fait on avait simplement des suspicions et on les a non pas amenés devant la justice américaine, mais au contraire on les a substitués à la justice en les envoyant dans des endroits de détention qui sont largement reconnus pour leur caractère illégal. On connaît bien sûr la prison de Guantanamo, mais il y en a eu plein d'autres.
Malika Danoa l'explique très bien. L'objet n'est plus de rendre la justice, mais de détenir des suspects. Les États-Unis privilégient désormais le militaire sur le judiciaire. L'idée n'est plus de juger un jour des personnes qui auraient commis des crimes, pas du tout. Sous prétexte de menaces terroristes, de menaces graves à l'ordre social, de périls imminents, les États-Unis s'autorisent la mise en place d'un dispositif répressif pour soutirer des informations en dehors de tout respect du droit et des libertés fondamentales des individus. C'est ainsi un ensemble de centres de détention et de prisons extralégales qui vont former un réseau international intégré dans ce qui s'appelle le programme de restitution extraordinaire. CIA et armée se partagent les prisonniers.
Les centres de détention dans lesquels les suspects de terrorisme qui avaient été enlevés ont été détenus étaient de trois ordres, c'est-à-dire qu'il y avait des lieux qui étaient sous supervision de la CIA, c'est ce qu'on a appelé des sites noirs. ces sites noirs ont existé, par exemple, en Thaïlande, en Pologne, en Roumanie, en Lituanie, en Afghanistan. Et donc, en fait, le principe, c'est que la CIA, pour la première fois de son histoire, s'est arrogé des missions de détention. Alors que normalement, la détention, c'est une mission de police. Mais or, la CIA étant une agence de renseignement, elle n'a pas le pouvoir de détenir. Or, dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, la CIA a mis sur pied son propre réseau de centres de détention à travers la planète. Et dans ce cadre-là, en fait, les individus qui étaient détenus étaient sous contrôle exclusif de la CIA. Et on y envoyait, en fait, il y était envoyé des individus qui étaient considérés comme des gros poissons, entre guillemets, c'est-à-dire des gens, soi-disant, des responsables importants d'Al-Qaïda impliqués dans des attentats contre les États-Unis ou contre d'autres pays.
Premier type de lieu de détention après enlèvement, les centres clandestins de la CIA appelés sites noirs, dont certains en Europe et dans lesquels la CIA détenait au secret des individus déclarés disparus. Et la CIA s'autorisait à tuer, capturer ou détenir n'importe qui. Et on y reviendra, mais parfois c'était vraiment n'importe qui.
Les deuxième type de centres de détention sont des centres militaires, c'est-à-dire qui sont donc sous la responsabilité de l'armée américaine. Et la plupart du temps, donc en fait, les prisons se trouvaient dans des bases militaires donc américaines à l'étranger. On connaît la prison militaire américaine de Guantanamo à Cuba, c'est sans doute la plus connue. Mais donc il y en a eu d'autres, par exemple dans une base militaire américaine au Kosovo, mais aussi voilà en Irak, en Afghanistan. Comme les Américains étaient sur le terrain dans le cadre d'opérations militaires officielles, il y a eu des centres de détention dans lesquels, en fait, des gens qui avaient été enlevés dans le cadre du programme de restitution ont été détenus.
Et c'est pas fini. En plus des sites noirs de la CIA et des bases militaires qui appartiennent aux Américains, il y a encore un type de lieu de détention dans lequel il n'y a pas toujours des agents américains, même si c'est toujours les Américains qui donnent les ordres et qui les contrôlent en sous-main.
Le troisième lieu de détention, donc, qui est en fait une modalité spécifique de détention qui relève de la sous-traitance, dans le sens où il y a eu un certain nombre de pays alliés des Américains, comme, pour en citer juste quelques-uns, le Maroc, l'Ouzbékistan, la Syrie, qui ont accueilli, entre guillemets, des détenus qui avaient été donc enlevés par la CIA ou par l'armée américaine et à qui donc en fait la CIA et l'armée américaine ont sous-traité la détention et la torture de ces individus.
Ton blabla, ton orgueil, tes égos, ton talent, ta droiture en parjure. Tes prouesses, tes canines, ton sourire, ton haleine, tes je t'aime. Ta posture, imposture, tes égards, tes mots, ton flot, tes débats, ton moi et ton surmoi, ta présence, suffisance, ta nuisance, ta colère, tes rictus, ta bave, tes laïus, ta violence. Ta violence, ta violence. Not all men. Not all men. Not all men. Tes envies, ton mépris, tes calculs, tes scrupules, ta bravoure, ta conscience, tes constats, tes caras. Ton karma, tralala, tes mouvements, ta démarche, tes moulins, tes vestes, tes vents, ta logorée, ta gloriole, tes auréoles, tes croyances, tes viols, tes viols, tes viols. Tes soucis, tes tracas, ta hauteur, ta froideur, cruauté, ta bêtise, tes actions, tes impressions, ton savoir, tes lectures, tes mensonges, tes hantises, ta connerie, tes tendances, tes mouvances, tes coups, tes potes relous, ta femme à la maison, ton froc sur les talons, tes questions, tes visions, ta diction, ton avenir, ta couardise, tes sourires, ton inceste, ton inceste, ton inceste. Not all men, not all men, not all men. Tous tes gestes, tes ordures, ta raclure, tes serments, tes blancs-seins, tes projets, tes que dalle, toutes tes failles, tes délires, tes folies, tes grandeurs, tes actions, tes excès, tes actions, tes regrets, tes envies, tes paroles en pustule, tes chagrins, tes ouin-ouin dans lesquels je prends mes bains, tes ouin-ouin dans lesquels je prends mes bains, tes ouin-ouin dans lesquels je prends tout. T'es pas vu, t'es pas pris, tes couilles, ta dépouille. Not all men. Not all men. Not all men.
Petite blanche dans du poil sous les bras.
L'agressivité et l'hégémonie des États-Unis sont assez incroyables. Mais si l'on peut critiquer l'impérialisme américain, n'oublions pas, et c'est ce que Malika Danois explique très bien, que le système de restitution extraordinaire n'aurait pu se faire sans tout un tas de pays collabos. Si les US sous-traitent la détention et les tortures, c'est que d'autres pays acceptent de détenir des personnes kidnappées hors de toute légalité et de les torturer sur ordre des Américains.
La pratique de la torture a été systématique dans tous ces lieux. Son objectif officiel étant extorquer des renseignements aux suspects de terrorisme dans une visée justement de collecte de renseignements pour aider à démanteler des cellules terroristes ou bien pour prévenir de futurs attentats terroristes.
Et c'est là que l'histoire devient encore plus complexe, inextricable. Quand vous sortez du cadre du droit, vous ne pouvez pas y revenir comme ça, d'un claquement de doigts, si tant est que vous en ayez envie en plus.
En fait, ce que j'explique, c'est que ces gens, ils ont été donc littéralement sortis du système judiciaire, ils ont été soustraits à la justice, et un des effets pervers de ce contournement de l'état de droit, c'est qu'en fait, après, ces gens-là on ne peut pas les réinjecter dans le système judiciaire et dans le système pénal ordinaire. Parce que dans un état de droit, c'est un principe fondamental des états de droit, on ne torture pas, on ne soustrait pas un individu à la justice pendant des mois, des années. Parce que si ces individus, en fait, en viendraient à reparaître devant une cour ordinaire, en fait, la cour ne manquerait pas d'ordonner leur libération, étant donné le traitement qu'elles ont subi avant. Parce que c'est un principe, voilà, fondamental des états de droit. La prohibition de la torture, c'est un principe fondamental des états de droit. Et donc, en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que si on y prête attention, eh ben, il n'y a aucune justice qui a été rendue dans le cadre des attentats du 11 septembre, par exemple. Les États-Unis détiennent à Guantanamo certains des architectes du 11 septembre. Mais du fait du traitement qui leur a été appliqué pendant une décennie, dans les sites noirs de la CIA, eh bien, il est impossible aujourd'hui de les juger dans le système judiciaire de l'état de droit américain. Parce qu'en fait, si ça se produisait, la Cour ordonnerait leur libération. Or, c'est une option que les différentes administrations américaines, en fait, ont refusé d'adopter. En fait, les gens sont toujours détenus aujourd'hui.
Le programme de restitution extraordinaire prive en réalité les sociétés et les victimes de la justice. Ce système illégal et immoral paralyse le système judiciaire. Malika Danois cite, entre autres exemples, le cas de la Française Bettina Gualard, une humanitaire assassinée en 2003 en Afghanistan. Le commanditaire présumé de l'assassinat était détenu illégalement à Guantanamo et les juges français ont mis, accrochez-vous, 16 ans à avoir accès à lui. Alors la prochaine fois que vous entendrez les populistes de type Ciotti prôner un Guantanamo à la française, rappelez-vous que l'efficacité politique de Guantanamo n'est pas démontrée à ce jour, mais que par contre, ce qui a été démontré, c'est que la violation des droits humains et des garanties internationales nous enfonce dans l'absurdité et abîme nos droits fondamentaux et nos démocraties. Guantanamo n'a pas servi à grand-chose d'ailleurs. Avant de quitter ses fonctions début 2025, l'administration Biden a essayé de vider Guantanamo en libérant certains détenus illégaux, des détenus qui étaient parfois enfermés depuis une ou deux décennies pour les plus anciens.
Aujourd'hui, à Guantanamo, il reste une quinzaine de détenus. En fait, l'administration ne sait pas quoi faire avec eux parce qu'en fait, ils n'avaient que des suspicions à leur égard. Et il y a aussi, voilà, certains architectes du 11 septembre, comme Khaled Sheikh Mohamed, qui est toujours à Guantanamo, mais que l'administration éprouve le plus grand mal à traduire en justice. Actuellement, donc à Guantanamo, il y a Khaled Sheikh Mohamed qui est considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre, son neveu aussi, Amar al-Baluchi, qui est suspecté d'avoir activement participé notamment au réseau de financement du 11 septembre, qui sont voilà, à Guantanamo depuis plus de 20 ans. Et ce sont des gens que donc l'administration américaine est tout à fait consciente du fait qu'elle ne peut pas les traduire devant une cour de justice fédérale, une cour de justice ordinaire. Parce que donc, du fait du traitement qui leur a été appliqué auparavant, donc torture et détention extrajudiciaire, et donc elle a essayé à Guantanamo de mettre sur pied en fait des commissions militaires dont la vocation serait en fait de juger des gens qui ont été torturés. C'est ça l'objectif de ces commissions militaires, donc qui ont été instituées par un décret militaire très tôt. Mais y compris au sein de ces commissions, en fait, c'est un casse-tête, que ce soit pour l'administration ou pour les avocats de la défense, parce que donc ils ont quand même, les accusés ont quand même le droit à des avocats. À partir de 2004, ils ont eu accès à des avocats, notamment pour ceux qui sont susceptibles d'être traduits devant les commissions militaires. Et en fait, les avocats, eux, essayent de faire en sorte que des preuves, que les aveux, entre guillemets, qui ont été extorqués sous la torture ne soient pas utilisés dans le procès des commissions militaires. Mais l'objectif de l'accusation étant l'inverse, que donc des aveux extorqués sous la torture puissent être produits comme preuves pour la condamnation. Et bien, en fait, il y a une bataille qui fait rage depuis plus de 10 ans. Entre l'accusation, donc l'administration américaine et les avocats de la défense pour essayer de faire en sorte que ces commissions jugent enfin, du côté, en tout cas, du côté de la défense, pour faire en sorte que ces commissions jugent de la manière la plus équitable ces gens qui auparavant ont été soustraits à la justice.
Malika Danois parle des Forever Prisoners, qui probablement mourront dans ces prisons secrètes, puisqu'à partir du moment où les US ont soustrait des individus aux droits, eh bien, il devient quasi impossible pour eux.